Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tovieille de Labroue pour vous servir et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Je vois que le printemps est revenu, les couleurs claires aussi. Écoute, tu es très ton sur ton, c'est très beau.
Mon petit sweet pastel.
Exactement.
Ouais, c'est la saison du pastel, ça y est, on a envie là hein, de je trouve.
De faire revenir le soleil de tendrement.
Exactement. Allez, quoi de neuf dans ta veille social media, mon grand, ce week-end?
Eh bien, je pourrais te parler d'Instagram. Tiens, Instagram. Hein. Alors, après le TikTok créateur portal, le Pinterest for Creators, c'est à Instagram de lancer son laboratoire de créateurs, le Creator Lab. On en avait déjà parlé, c'est un projet hein, qui datait de quelques temps, mais là, c'est concret. L'objectif de la plateforme est d'outiller les créateurs de contenu pour les aider à maximiser leur performance. On sait que le créateur de contenu, c'est un peu la plus grosse monnaie d'échange des plateformes actuellement, c'est la plus grosse valeur qu'ils ont et ils se rendent compte depuis 6 mois, 1 an, que si on veut les conserver, si on veut faire du pognon avec eux, il faut les chouchouter, leur proposer des outils, les aider à performer. Pour atteindre cet objectif, donc, le groupe Meta met à disposition des créateurs des ressources vidéo qui ont elles-mêmes été créées par des créateurs Instagram. Donc c'est là où tu as un vrai effet de cohésion hein, par les créateurs, pour les créateurs, c'est un peu la démocratie de la nouvelle république Instagram. C'est donc des vidéos tuto qui s'articuleront autour de trois grands axes. L'expression, trouver son why, trouver sa tonalité, créer sa stratégie de contenu, tout un pack de contenu pour améliorer sa manière de s'exprimer sur la plateforme, se positionner. Deuxième pilier, la construction d'une communauté, nourrir sa communauté, collaborer avec d'autres créateurs, gérer la pression sociale, fixer des limites, tout ce qui peut t'aider à construire ta communauté Instagram. Et puis ensuite, un pilier sur la projection sur le long terme, appréhender l'algorithme, développer des partenariats avec des marques, vendre des produits, faire des lives, etc. Au travers de ces vidéos, Instagram souhaite aussi aider les créateurs à gérer les aspects négatifs, entre guillemets, des réseaux sociaux, haine en ligne, burn-out, limite de la vie privée, encore une fois. C'est un site super simple, accessible à tous sur creators.instagram.com/lab. Le lien sera en note de ce podcast.
Ouais, c'est marrant d'avoir mis ça sur un site internet. Alors, ils ont aussi, hein, vous le savez, ce compte Instagram qui s'appelle Creators,
oui.
@creators,
qui met en avant
Instagram,
des créations.
Qui met en avant, oui, et puis des créateurs de contenu aussi qui parlent face caméra, qui donnent des tips, on va dire. C'est pas mal fichu. Hein. Je vous invite évidemment à vous abonner à ce compte. Et puis effectivement, ce nouveau site internet là, le Creator Lab, pas mal. Je suis allé jeter un coup d'œil dessus, ouais. Et c'est marrant parce que donc beaucoup de contenu vidéo et du contenu vidéo 9/16e évidemment, un vert au cœur d'un site internet, voilà. Donc là aussi, je trouve marrant que Instagram pose les bases, peut-être, de comme ça, du recyclage vidéo, y compris Insight, hein, embedded dans les sites web qui est en vertical et ça marche plutôt bien.
Maintenant, on attend vraiment de voir comment ça va se développer. Là, ouais. On a une bonne base solide.
Oui, il y a des trucs intéressants.
Hein. Maintenant, il faut voir comment on peut les aider vraiment à progresser.
Est-ce que ça va se nourrir ou est-ce qu'on va rester sur cette. Allez, aujourd'hui, tu dois avoir une cinquantaine de vidéos.
Ouais.
Ou est-ce que demain, ce truc-là va continuer
il en faut plus. Il en faut plus.
Allez, on va rester chez Instagram. Instagram qui propose désormais une option de modérateur pour les lives Insta. Je ne sais pas si tu as vu ça,
eh ben non.
Camille. C'était plutôt attendu hein, comme info, on va dire, hein, Instagram qui propose désormais une nouvelle option de modération des flux en direct, hein, donc des live streams, et qui permet aux utilisateurs d'affecter un modérateur au sein d'un direct. Jusqu'à présent, quand tu faisais un live, tu appuyais sur le bouton live sur Insta et tu te démerdes. Donc tu es tout seul face à potentiellement des centaines, voire des milliers de commentaires qui déboulent en direct. Alors bien sûr, tu as d'ores et déjà des options à ta disposition pour modérer ces commentaires, mais factuellement, quand tu es en gestion de ton direct, c'est quand même impossible de tout faire à la fois, d'être face caméra, d'animer une communauté et en même temps de modérer ce qui se passe dans les commentaires.
Et tu peux pas participer à ton propre live en ouvrant par exemple ton compte sur un autre téléphone pour
impossible.
Répondre.
Impossible. Impossible. Et donc là aujourd'hui, maintenant, au moment de commencer ton live, tu vas pouvoir désigner l'un de tes followers comme modérateur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il aura la capacité, ce modérateur, eh bien, de signaler des commentaires, de supprimer supprimer des spectateurs de ton feed en direct, hein, et puis de désactiver aussi les commentaires pour un spectateur spécifique, donc un mec un peu chiant, okay. Un troll. Et ça, on le sait, jusqu'à présent, la modération des lives, je le disais, c'est compliqué, et vu que tout se passe en direct, eh bien, c'était devenu un problème pour bon nombre de créateurs de contenu qui se faisaient littéralement harceler, hein, par des gars qui arrivaient en bande au milieu des lives Insta et qui globalement cartonnaient le live Insta de commentaires dégoûtants. Et là, ça permet de bouger. Alors c'est intéressant que Instagram aille sur ce terrain, parce qu'on le sait, côté live, hein, Twitch notamment, est beaucoup mieux outillé aujourd'hui, avec un paquet d'options de modération automatisée qui n'existe pour l'instant pas du tout du côté d'Insta. Donc premier pas vers davantage de modération au cœur de live Insta, la possibilité de créer un modérateur.
À noter que sur Facebook, par contre, là, tu pouvais déjà modérer sur un deuxième ordi avec ton propre
oui,
compte.
Oui, tu ouvrais un deuxième compte et puis tu mettais, je sais pas, le CM de ta marque pendant que le directeur produit, voilà, il bosse, qui pouvait faire ça. Là, tu vas pouvoir effectivement. Et du coup, pour les marques, c'est quand même très intéressant, ouais, parce que c'était sûr. Un peu un frein jusqu'à présent de faire un face caméra avec un chef de produit, avec un ambassadeur, avec un athlète, quelque chose. Parce qu'on a toujours un peu peur que ça dérape, et difficile en direct de passer par-dessus l'écran et de dire attends, deux secondes, je vais modérer ce truc-là.
Oui,
là, tu vas pouvoir le faire.
Et puis aussi, tu peux avoir peur que ton sujet n'engage pas énormément. Du coup, tu as besoin quand même de quelqu'un pour venir relancer la discussion, étayer les sujets, donner plus d'infos. Parfois, simplement, rendez-vous sur la boutique, sur telle page.
Exactement.
Donc, super intéressant. On surveille ça. Moi, je vais te parler de Pinterest qui arrive avec des news shopping. Alors, je sais qu'il y a toujours plein de trucs. C'est toujours un peu fascinant, le shopping sur Pinterest. La semaine dernière a eu lieu la deuxième édition de Pinterest Present, hein, quand c'est leur super sommet, quand Pinterest présente ses nouveautés à ses annonceurs pour rassurer tout le monde, pour montrer que ça évolue dans le bon sens. Pinterest a donc annoncé qu'en 2022, la plateforme souhaitait mettre l'accent sur le développement de contenu et de l'écosystème shopping, donc encore plus de news de ce côté-là. L'objectif de Pinterest, hein, est de devenir l'espace en ligne par excellence où faire un shopping personnalisé qui permette aussi aux utilisateurs de donner vie à leur tableau et d'acheter encore plus facilement sur la plateforme. Il y a quatre grandes nouveautés, hein, shopping annoncées pour 2022. La première, c'est votre boutique. C'est une page qui offrira des recommandations de shopping personnalisées. Pour aller dessus, il y aura un max de produits sélectionnés par un algorithme basé sur tes préférences utilisateurs. Donc on revient encore dans ces process d'algorithmes de préférence. Pinterest Trends, un outil qui est destiné là aux créateurs, aux annonceurs et aux e-commerçants, qui permettra de découvrir en temps réel les tendances sur la plateforme et les produits les plus recherchés, les plus sollicités par les utilisateurs. C'est un peu le Pinterest Predicts de la fin d'année, ou le Pinterest P100.
Mais en flux continu, hein, c'est ça.
En permanence, donc okay, tu pourras savoir qu'est-ce qui est le plus demandé dans les 3 derniers mois, potentiellement adapter ta ligne de produits. Et puis, alors celui-là, il est assez incroyable, rien que le nom m'a fait vibrer, Pinterest Checkout. Dans la continuité, hein, du partenariat qui a été mis en place entre Pinterest et Shopify, il y a une fonction Checkout qui a été annoncée pour régler ses achats directement in-app chez les e-commerçants partenaires. Donc on aura peut-être, ça y est, le premier acteur du checkout, hein, donc payé en ligne sur les plateformes, et ça sera peut-être Pinterest. Donc ça, c'est assez ouf.
Donc ça, ce sont les annonces qui ont été faites là pour l'année 2022.
Et, okay. Puis la dernière annonce, une API dédiée au shopping. Là, ils étaient un peu à la bourre, mais ça avance, hein. La création et le téléchargement des catalogues de produits pourront être simplifiés pour les marques. Aujourd'hui, Pinterest, c'était un export CSV ou XSV hyper complexe qui intégrait tout ton site. On le voit sur des marques comme Leroy Merlin qui ont 3 millions de produits. Et bien là, ça sera directement lié comme on peut l'être sur Facebook Shopping ou Instagram Shopping.
Et encore une fois, Shopify au premier ligne, hein, des partenariats stratégiques avec ces plateformes sociales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, si vous êtes encore hésitant sur votre stratégie e-commerce, si vous envisagez potentiellement de développer un site maison, posez-vous quand même bien la question. Est-ce que c'est vrai que Shopify est en train de truster tous les partenariats stratégiques avec les acteurs du social media, les plateformes sociales, et sera sans doute le premier disponible, la première plateforme disponible sur ces fonctionnalités de checkout, hein, donc de commerce avancé sur les plateformes sociales.
Carrément.
Tu le sais, ici on parle souvent de marque engageante, hein, de love brand. Une love brand, c'est cette marque, hein, qui parvient à tisser des liens suffisamment forts avec ses clients pour qu'ils deviennent des fans de la marque, hein. Parfois ça peut aller assez loin, parfois même trop loin. C'est ce qu'a détecté notamment la société Deal A, qui a effectué une étude très intéressante. Elle a étudié quels étaient les logos de marques les plus tatoués au monde. et pour ce faire, eh bien, la société a dressé une liste disons, de 70 marques mondiales extrêmement mainstream, extrêmement populaires. Et elle a fouillé dans les hashtags d'Instagram. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié les posts qui contenaient à la fois un hashtag de marque et puis à la fois un hashtag tatou. Voilà, cette combinaison. Et du coup, ils dressent un classement. C'est vachement intéressant, je trouve. Et il y a une marque qui est loin devant. Harley je te laisse Davidson. Deviner. Non. Harley Davidson est troisième, voilà, dans le classement. Eh bien non, c'est Disney qui est loin devant avec 475 000 publications détectées par de tatouage du logo ou de référence directe à la marque Disney, par exemple la petite tête de Mickey, les petites oreilles, etc. Voilà, donc Disney loin devant, ensuite suivi par Nintendo, Harley Davidson, Lego, tiens, peut-être toi qui es fan de Lego, peut-être que tu as une brique tatouée quelque part sur un mollet, et puis Nike est cinquième. Je trouve ça assez fascinant, ce mélange, et puis surtout d'avoir poussé la réflexion de lecture de hashtag en croisant les hashtags. C'est intelligent, c'est malin. Voilà, je vous laisse le lien direct vers cette étude si vous voulez aller voir la suite du classement.
Donc si je comprends bien, si je me fais tatouer une étagère Billy dans le dos et hashtag tatou, il y a des chances que je sois dans la catégorie Ikea. Quoi.
Ikea, ouais. Alors il n'y avait pas beaucoup de Ikea tatoués quand même. Mais bon, voilà.
Tu sais que ça me fait plaisir cette étude parce que j'adore suivre les comptes de tatoueurs, alors soit de belles réalisations, soit de trucs un peu what the fuck, et ça me fait beaucoup rire. Et on pourrait faire énormément d'études avec ce process.
Oui, bien sûr. Alors j'avoue que j'ai du mal à savoir comment ils ont réussi, on va dire, à faire une étude croisée de hashtag, parce qu'aujourd'hui c'est pas une fonctionnalité native, donc ils ont dû développer leurs propres outils, j'imagine, pour faire ça. En tout cas, intéressant. Voilà, Disney en premier, Nintendo, Harley Davidson, Lego et Nike ensuite.
Moi je vais te parler de Twitter. Alors, désolé, ça sera pas aussi drôle. Twitter qui va modifier sa timeline pour le meilleur et pour le pire. J'ai vu des tonnes d'articles et c'est un titre joliment accrocheur qui m'a fait cliquer sur cette news. Twitter, vous allez détester la nouvelle timeline par défaut. On sait que Twitter, c'est un peu comme les fans d'un subreddit ou d'un forum. Ils sont très attachés à leurs outils, à leurs habitudes. Voilà.
Si ça pouvait ne pas bouger pendant 15 ans,
ça serait rassurant. Une nouvelle timeline, donc, et même plus largement, des changements dans son algorithme sont au menu pour Twitter. Si la tendance algorithmique est au flux suggéré selon les centres d'intérêt, Twitter reste l'un des derniers à proposer un contenu chronologique. En tout cas organisé dans le temps, ça sent le sapin pour eux. La nouvelle version en cours de déploiement propose une page d'accueil baptisée Accueil, basé sur ce nouvel algorithme. Donc pour revenir à un affichage chronologique, l'utilisateur devra désormais cliquer sur la petite étincelle en haut à droite de l'écran pour obtenir une nouvelle disposition avec les derniers tweets, donc ça sera encore possible. On pourra ensuite basculer d'un affichage à un autre via un glissement de doigt sur l'écran. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Facebook. Alors on va remettre le flux chronologique, mais il sera planqué là-haut dans le troisième onglet. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent.
Par défaut, un flux par centre d'intérêt, c'est ça?
Voilà. Et pour ceux qui se le demandent, comme toujours, il ne sera pas possible de choisir son algorithme, son affichage par défaut. Bien sûr, voilà, ça sera possible de le faire, mais pas par défaut. Pour l'instant, cette nouvelle fonction est déployée sur iOS et il faut s'attendre à avoir des changements très rapides. Voilà.
Ouais, c'est sûr que ça va en chambouler un certain nombre. Et puis ça risque aussi de chambouler un certain nombre de stratégies aussi de prise de parole sur Twitter. On le sait, compte tenu de l'affichage antichronologique, c'est-à-dire le dernier qui publie a plus de chances d'être visible, eh bien on se retrouvait parfois avec des stratégies de contenu avec du repeat, c'est-à-dire 3-4 fois le même post dans la même journée pour être sûr de pouvoir le faire émerger. Et peut-être là les choses vont bouger. Intéressant. Allez, on va un tout petit peu sortir des plateformes pour aller vers une autre, cette fois-ci de streaming, Spotify. Spotify qui se rêve en major du disque et tente la mise à mort tout simplement des maisons de disques traditionnelles, puisque Spotify vient de déposer un brevet pour un algorithme de détection de talents. L'idée de la plateforme, c'est capitaliser sur la masse de données dont elle dispose aujourd'hui pour détecter les talents émergents et potentiellement les signer. Il faut savoir aujourd'hui que sur Spotify, il y a 60 000 nouvelles tracks, nouvelles chansons qui sont, ou titres qui sont chargés sur Spotify chaque jour. 60 000, c'est vraiment énormissime. Ça fait plus d'un titre par seconde, donc ça donne quand même une notion du volume de contenu qu'il y a là-dessus. Et là, avec ce brevet, Spotify pense, en tout cas, va mettre un coup de pied dans l'écosystème des maisons de disques et notamment leur capacité de détection de talent. On le sait, aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre pour les maisons de disques, voire même c'est un vrai levier économique, détecter des talents prometteurs avant les autres et puis les signer à pas cher pour ensuite potentiellement, parfois même juste créer des fonds de catalogue sans forcément les sortir, mais aussi parfois les signer tôt pour ensuite pouvoir appuyer sur le champignon, sur le développement. Et là, Spotify évoque de manière assez explicite la possibilité de nouer à terme des contrats avec les artistes émergents qui auraient été repérés automatiquement par son IA sur les plateformes. Et ça, c'est un peu une déclaration de guerre parce que Spotify a aujourd'hui des clauses de non-concurrence avec les majors, notamment sur la signature des artistes. Alors, c'est très intéressant parce qu'on le voit, Spotify actuellement est un peu glouton sur le contenu. C'est notamment le cas du côté des podcasteurs non content de produire un certain nombre de podcasts, ils rachètent aussi des podcasts indépendants. Peut-être ils ont en tête le même réflexe sur la musique, de dire « moi, je vais pouvoir détecter les artistes qui ont la capacité de sortir du lot aller les signer avant les majors. Du coup, la réponse des Sony, Universal, Warner, etc., elle pourrait être assez drastique. Ça pourrait notamment être on retire tous nos artistes du catalogue Spotify. Les semaines à venir ou mois à venir s'annoncent assez intéressantes de ce côté-là.
Ils sont en train d'envahir le terrain des majors, là. Attention. Mais Spotify, du coup, est un label. Ils ont le droit de fonctionner comme un label, j'imagine.
Eh bien, pour l'instant, non. C'était un peu le statu quo qu'ils avaient avec les majors. C'était de dire, nous, on diffuse vos artistes, mais jamais de la vie, on va aller les signer et en assurer et devenir éditeur ou agence de ces artistes. Eh bien, de la même manière qu'ils ont bougé sur le podcast, ils se posent la même question, je pense, sur les artistes.
Eh bien, écoute, super intéressant. Je vois que tu nous as sorti des bonnes news de geek, là, des trucs.
Ah, il y a des lundis comme ça.
Des matrices du stat, de l'info. Faut remonter automatiquement.
Il y a des lundis comme ça, mon grand.
Écoute, Thibaut, on a fait le tour
pour
ce matin. On va se retrouver demain.
On est là.
Podcast, au même endroit.
Demain, 9h du matin, en direct sur Twitch, en direct sur Spaces, et puis évidemment, dans votre application de podcast préférée, si vous nous écoutez, les amis, sur Apple Podcast. Soyez cool, mettez-nous un petit commentaire, ça nous fera très plaisir de vous lire. Et puis, si vous êtes sur Spotify, pareil, mettez-nous 5 étoiles, ça nous donne un petit coup de pouce. Ça permet à plus de monde de découvrir le Super Daily.
On vous embrasse très fort et on vous dit à demain.
Allez, très belle journée
ciao,
à tous.
Salut, ciao, bye.